Bonjour tout le monde et bienvenue dans le sixième épisode du Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir déjà le dernier invité de la semaine 100% baseball sur les ondes du Made in Québec podcast. Et oui, j'avais décidé de faire une semaine qui rendait hommage au baseball, qui est un sport qui me tient à cœur vraiment, comme ceux qui me connaissent le savent. Et puis, aujourd'hui, je reçois un invité que je connais déjà depuis un certain temps, Kevin Young de la compagnie B45. Ceux qui ne connaissent pas Kevin, en fait, c'est un agent, c'est un représentant, ou un terme anglais, MLB Rep, qui est un représentant spécialisé dans le baseball majeur. Et puis, afin de représenter naturellement les produits B45 auprès des athlètes, des joueurs en question. Et puis, je voulais recevoir à mon podcast simplement parce que Kevin a un parcours incroyable. Combien de gens peuvent se vanter de travailler avec leurs idoles, d'avoir comme mentor leur idole? Donc, quand on passe à Éric Gagné, qui est un mentor pour et un patron maintenant aujourd'hui pour Kevin. Et puis, on a parlé vraiment de son parcours qui est tellement inspirant. Là, on pense aussi à le fait qu'il côtoie des vedettes à chaque jour, qu'il doit se déplacer aux États-Unis tout le temps, en fait. Et puis maintenant, dans le monde, on pense en Asie, la Corée, la Taïwan et tout ça. C'est vraiment un parcours incroyable pour un Québécois d'ici qui peut nous inspirer, mais également, je voulais qu'il nous parle de son entreprise B45 pour laquelle il travaille. C'est une entreprise qui fabrique des bâtons 100% Made in Québec. Donc, vous allez comprendre le lien naturellement avec le Made in Québec podcast. Et puis, non, je voulais vraiment qu'on en parle parce que c'est un produit que je connais, que j'utilise déjà depuis quelques années. C'est un produit qui est unique. Là. Il y a rien de comparable dans le monde. C'est du yellow birch. En fait, c'est le bois du bouleau jaune, en bon québécois, là, qu'on utilise pour faire les bâtons en fait, de baseball B45. Les avantages, comme on le disait, c'est un bâton qui est extrêmement flexible, mais également durable. Donc, il brise beaucoup moins. Si vous êtes dans une ligue de baseball mineure et que vous n'avez malheureusement pas beaucoup de budget pour vous acheter des bâtons, on pense quand même que c'est une centaine de dollars par bâton, ça va vite. Et puis là, on a la chance d'en avoir peut-être un ou deux qui va nous durer pendant 2, 3, 4 saisons, on ne sait pas. C'est sûr, ça reste du bois. Il peut y avoir un accident qui se produit qui fend en deux carrément. Mais on a la chance d'avoir un produit durable beaucoup plus que dans certaines autres marques de produits plus connus. Et puis, le baseball majeur l'ont testé, l'ont prouvé. C'est effectivement un des plus durables, si ce n'est pas le plus durable dans le monde. Écoute, on a tellement d'anecdotes qu'il nous a racontées quand on parle de Carlos Gonzalez, qui est un de ses joueurs qui représente ambassadeur pour B45, une grande vedette du baseball majeur. C'est un gars qui a vraiment fait sa renommée avec les années. C'est un joueur également qui a un élan qui est spectaculaire dans tous ses points, une quarantaine de circuits dans 2-3 saisons consécutives. C'est vraiment un joueur exceptionnel et puis B45 long comme ambassadeur. Et puis, on en a parlé de sa relation avec lui, sa proximité avec sa famille. On a également parlé de certains Québécois, Éric Gagné, Russell Martin, Philippe Aumont. Vraiment, là, on a jasé de baseball en masse pour ceux qui aiment le baseball. Mais pour ceux qui n'aiment pas le baseball aussi, l'épisode est pour vous. C'est important de le dire, femme, homme, peu importe, c'est pour vous ce podcast. Vous voulez être inspiré. Écoute, Kevin a réalisé un parcours qui est unique, qui est vraiment de tracer son propre chemin. C'est carrément ça que j'essaie d'enseigner aux jeunes par mes conférences. Soyez inspirant en créant votre propre parcours. Copiez pas les autres, mais inspirez-vous du parcours de certains gens qui ont réussi. Et puis, Kevin Young est l'exemple parfait de quelqu'un qui a réussi à se démarquer par son parcours inspirant. Et puis, ça m'a fait un grand plaisir de le recevoir pour ce dernier épisode de la semaine spéciale baseball sur les ondes du Made in Québec podcast. Et déjà, l'épisode numéro 6, c'est incroyable. En seulement 2 semaines, je vous ai gâté avec 6 épisodes. Je suis très heureux de pouvoir vous partager toutes ces belles histoires. Et puis, pour ceux qui sont un peu tannés de baseball, faites-vous-en pas. J'ai pensé à vous. J'ai des invités incroyables qui s'en viennent dans les prochains jours et de toutes sortes de milieux. On va s'en aller un peu dans le hockey aussi. On va rester dans le sport dans certains cas. Je vais avoir d'autres types de sports également qui s'en viennent dans les prochains jours. Mais des gens qui sont dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est un début du podcast. Je vais recevoir des gens d'entreprise qui n'ont aucun lien avec le sport. C'est vraiment important pour moi. Faites-vous-en pas. Je parle de sport. On est au printemps. C'est normal, ça fait du bien. On n'en voit plus à la télévision. On en a de besoin. Et puis, j'ai un décor qui fit pour l'occasion, donc j'en profite. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite une excellente écoute pour le 6e épisode du Made in Québec podcast. Merci. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le sixième épisode du Made in Québec podcast. Et aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la semaine spéciale baseball. On a reçu 5 invités vraiment incroyables. Et puis, on termine ça la semaine, en fait, avec la série sur le Sunday, rien de moins que Kevin Young, en fait, de B45, qui est une compagnie, en fait, qui fabrique des bâtons de baseball 100% Made in Québec, donc concept avec le Made in Québec podcast. Et puis, en fait, les gros avantages, vite, de, si vous vous demandez c'est quoi le bâton B45, ben c'est du Yellow Birch, simplement. C'est un bouleau jaune qui est un de nos spécialités québécoises qu'on fait ici. On a de l'érable excellent au niveau dans le bois, mais également du Yellow Birch. Et puis, B45, on focusait là-dessus pour avoir le meilleur bâton de baseball au monde. Et puis, en connaissant un peu Kevin avec différents, dans le fond, pour parler qu'on a eu au niveau de la photographie sportive, j'avais pas le choix de l'inviter au podcast parce que c'est quelqu'un qui a un vécu incroyable. Il parcourt l'Amérique du Nord. Puis là, je viens d'apprendre que le monde également, il est à ses pieds. Et puis, on a vraiment beaucoup de choses à jaser au niveau baseball. Mais je veux surtout qu'il vous inspire à travers cette période qui n'est pas trop facile, mais il y a vraiment un parcours inspirant. Alors, je vais lui laisser la présentation lui-même. Kevin, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Alors, présente-toi un peu. C'est qui Kevin Young? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'où tu viens? Quand est-ce que tu as commencé à jouer à balle? On veut tout savoir.
Écoute, j'ai commencé à jouer à baseball, j'avais 5 ans. Mon père m'avait amené au parc, m'avait dit « Essaye ça, t'aimes-tu ça, t'aimes-tu pas ça? » J'ai vraiment aimé ça. Aussitôt que j'ai mis les pieds sur le terrain, là, on dirait que ça allait être un coup de foudre pour moi. Là. Je suis tombé en amour avec ce sport-là. Puis ce sport-là, ben heureusement pour moi, j'ai réussi à pouvoir faire ma vie. Ma vie, dans le fond, ma vie a suivi son chemin là, par rapport à ce jour 1 là, que je suis allé sur un terrain de baseball. Wow. Donc aujourd'hui, à 30 ans, je suis encore sur le terrain de baseball. Je vis ma passion à travers mon travail, à travers mes amis, à travers mes connaissances, mes contacts par rapport au sport. Donc, c'est vraiment le fun.
Wow, écoute, j'entends déjà tous les gens qui sont passionnés de baseball au Québec dire « Attends, ce gars-là gagne sa vie dans le baseball. » Oui, il n'y en a pas beaucoup de Québécois qui peuvent se vanter d'avoir la chance de travailler dans le baseball majeur. En plus, là, on ne parle pas juste du baseball mineur. Là, tu côtoies carrément des athlètes du baseball majeur. Et puis, je trouvais que c'était très inspirant parce que c'est pas juste les gens qui sont fans de baseball qui écoutent le podcast. Puis, je veux vraiment que les gens comprennent que ton parcours, oui, il est en lien avec le baseball, mais c'est que tu as vraiment franchi une barrière qui, pour ceux qui connaissent un peu ça, là, c'est quasiment une barrière de l'impossible. Là. C'est de travailler dans le baseball majeur en tant que Québécois. Il y a une petite majorité qui peuvent, en fait, une minorité de gens qui peuvent se vanter de l'avoir fait. Et puis toi, tu l'as fait, c'est vraiment hyper inspirant. Et puis, je veux savoir, dans le fond, qu'est-ce qui a mené à travailler pour B45? D'où est venue la première approche que tu as eue avec eux?
Ben écoute, ça fait déjà quelques années là, que je suis avec la compagnie. Moi, tout a commencé, dans le fond, là, j'ai rencontré Eric Gagné, ça fait peut-être 6-7 ans, je te dirais. J'ai eu la chance là, qu'il m'invite en Arizona, chez lui, m'entraîner avec des lanceurs. C'est sûr qu'à ce moment-là, je travaillais beaucoup avec Philippe Aumont, Justin Terrien, d'autres lanceurs durant la saison mort.
T'es-tu entraîneur, excuse-moi, ou…
Pardon?
T'étais-tu entraîneur ou quoi? C'est quoi tu faisais à ce moment-là?
Moi, je suis catcheur depuis que j'ai 5 ans.
OK.
Puis, tu sais, j'étais le receveur à Philippe Aumont avant qu'il se fasse repêcher. J'étais le receveur à Justin Terrien avant qu'il se fasse repêcher.
OK.
Avant ça, tu sais, Steve Green, Philippe-Alexandre Valiquette, tous ces gars-là, c'est des gars que j'ai catchés quand j'étais plus jeune. C'est des gars avec qui j'ai appris à travailler avec des lanceurs de haute qualité, si on veut. Donc, tu sais, moi, en tant que catcheur, mon travail, c'est d'observer les petites choses que certaines autres personnes peuvent pas voir de leur angle ou de où le lanceur va lâcher la balle. Quand il fait un différent lancer, est-ce que ses doigts, on voit la différence? Tous des petits détails que, à un niveau professionnel, les joueurs, les frappeurs, ils voient ça. Puis moi, en tant que catcheur, j'ai réussi à avoir des petites affaires comme ça qui peuvent aider mes lanceurs à performer, à s'ajuster pour être les meilleurs lanceurs rendus sur le terrain.
Wow!
Eric, il travaillait avec un jeune Cubain qui avait 16 ans. Écoute, un Cubain 16 ans, gaucher. Il lançait 92 000 à l'heure. Un top prospect, un peu dans le style de Haroldis Chapman, je dirais.
Un beau prospect, ouais.
C'est ça. Donc, j'étais allé en Arizona. La relation avec Eric, elle s'est établie comme ça. Puis je vais toujours me souvenir, cette journée-là, là, on était dans sa cour. Dans le fond, là, lui, il y a les monticules dans sa cour. On a un gym dans sa cour, on a vraiment un beau setup. Là. On était tous les boys assis. On faisait des burpees. On faisait des burpees parce qu'on avait fait des petits bêtes. Puis on a vraiment du fun à s'entraîner ensemble là-bas. Puis en faisant ça, Eric il m'est arrivé et il m'a dit « Hey Kev, ça se peut que j'achète B45, ça pourrait être quelque chose de cool, tout ça. » J'ai tout le temps rêvé d'avoir un magasin de sport ou une compagnie de sport ou quelque chose. Fait il me fait ça comme ça. Puis là, moi, je dis « Ah, c'est cool, tu sais, on va avoir des rabais sur des bâtons, on va avoir des petits dégâts, ça va être cool, tu sais, puis c'est le fun. » Donc, à partir de ce moment-là, il m'a dit « Hey Kev, qu'est-ce que t'en penses de vendre des bâtons? Ça te tenterait-tu de faire ça? » Là, moi, je suis comme un petit peu. J'ai tout le temps travaillé dans le domaine de la sécurité, je te dirais, au Québec. Là, je suis un petit peu. Hey, peut-être, tu sais, ça peut être quelque chose d'intéressant à vivre.
T'avais jamais eu d'expérience dans la vente avant ce moment-là?
Non, absolument pas. J'ai tout le temps été quelqu'un qui parle beaucoup, qui a des bons contacts, des bonnes plugs, que tu sais, quand je veux quelque chose, je travaille fort pour atteindre mon objectif. Puis ça, j'imagine qu'Éric avait peut-être vu ça à travers moi. Là. On passait toutes nos journées ensemble, on était pratiquement 24 heures sur 24 ensemble à parler de tout, de rien. Fait que c'est sûr que la relation s'est établie vraiment forte à ce moment-là. Puis écoute, à partir de là, là il m'a shooté ça comme ça. J'ai dit, regarde, on va essayer. Fait que là, il m'a dit, OK, ben, regarde, il dit, là, tu retournes au Québec, nanana. Il dit, reviens en Arizona pour l'Arizona Fall League, puis on va voir comment ça se passe. Fait que c'est à partir de ce moment-là là, que je suis revenu au Québec. Je suis allé avec Éric. Éric est venu au Québec. On est allé ensemble à B45, à l'ancienne usine, en fait, là, qui était à Sainte-Catherine. Écoute, on rentre là-dedans. À ce moment-là, je connais les bâtons, je connais les modèles, je connais plein d'affaires déjà au niveau du baseball parce que, je veux dire, j'ai joué toute ma vie. Mais en termes de fabrication de bâtons, les procédés, le processus, tout ce qui... J'avais aucune idée, là. T'sais, j'avais une petite idée, mais de voir tout le travail qu'il y a derrière la fabrication d'un bâton, c'est quelque chose que, si tu ne l'as pas vu, tu peux avoir des idées, mais pas au complet, là.
Écoute, je me lance une invitation. Si un jour tu as besoin de gens pour visiter l'usine, j'y vais en courant.
Ouais, on s'organisera ça.
C'est vraiment impressionnant. J'ai vu des reportages à la télévision parce que je pense que Michel Laplante avait lancé au départ l'entreprise, si j'ai une bonne mémoire, où il était dans le groupe qui a parti toute cette aventure-là, en fait.
Oui, exactement. Écoute, c'est il y a 16 ans, là, je te dirais. Il y a Michel Laplante avec Olivier Lépine, qui est toujours avec nous, en fait. Ils ont décidé d'essayer de faire des bâtons de bois avec du yellow birch, comme tu as dit tantôt. C'est sûr que le plus populaire dans le temps, c'était ça a toujours été le maple, ainsi que le ash, qui était pas mal les deux top. Mm-hmm. Puis là, depuis qu'on a commencé le yellow birch, je te dirais que au niveau des statistiques officielles de la MLB, le yellow birch, il monte à un niveau assez rapide. Le maple, il reste pratiquement la même chose. Et le H, il s'en va vers la pente descendante. Là. Wow. Donc, notre produit qu'on a commencé il y a déjà 16 ans, il prend de l'ampleur dans le baseball majeur ainsi que dans le baseball amateur parce qu'il y a beaucoup de gens que... Oui. Le Yellow Bird, ce qui arrive, c'est que les bâtons vont moins briser qu'avec l'érable parce qu'il y a une flexibilité dans le bois. Mm-hmm. Donc ça, c'est sûr, c'est intéressant pour des gens qui commencent à frapper avec du bâton de bois. Ils ne savent pas exactement comment frapper, quel côté on met le grain, tous les petits détails que tu apprends quand tu commences à frapper avec des bâtons de bois.
Oui.
Donc, c'est un petit peu ça. Là. C'est devenu super populaire rapidement. Puis, mon travail, c'est un petit peu ça, là, de vendre ce produit-là.
Un beau produit en plus, puis non, c'est drôle que tu en parles parce que ma ligue, en fait, moi, je joue pour le plaisir là, dans le Seniora avec une couple de mes chums, puis cette année, on a décidé que la ligue devait se convertir au bâton de bois, en fait, on jouait avec la lue avant, puis maintenant, c'est 100% en bois, et ça va être, on espère pouvoir jouer un jour, là, mais c'est le début de l'aventure du bois, puis certains n'étaient pas certains non plus, ils disaient, ben là, écoute, ça va fendre, on va en acheter combien par année, un alu, tu gardes ça 10 ans, puis c'est encore bon, ça fait peur à beaucoup de gens, mais moi, j'avais la chance d'avoir un bâton B45, que, malheureusement, je me suis fait voler dans un tournoi l'année dernière, et puis, c'est parce qu'ils sont trop bons, c'est pour ça, puis l'avantage que t'as, ben d'un, j'ai pu personnaliser mon bâton, j'ai pu l'avoir la couleur que je voulais, le design que je voulais, c'était mon cadeau de fête, vraiment, c'était exactement lui que je voulais, et puis, c'est vraiment un feeling différent pour les gens qui n'ont jamais frappé avec du B45. c'est un autre monde. On sent vraiment le bois d'une qualité différente complètement. On sent la balle qui a un impact différent quand on frappe avec le bâton. On sent vraiment le feeling est complètement à part. C'est pas un bâton de bois traditionnel. Et puis, j'ai jamais vu le bout. Je l'ai gardé pendant plus de 3 ans et demi, ce bâton-là. Il n'a jamais fendu. Je l'ai pogné des fausses balles, excusez l'expression, là, mais tu sais, sur le manche carrément. Là, puis, c'est d'habitude, un bâton de bois, ça va fendre, avoir une belle craque partir dessus. Jamais j'ai vu une craque, un égratigneux, quoi que ce soit. J'en ai frappé des balles avec, puis ça a été un excellent achat, sincèrement. Mais j'ai pas eu le temps de voir la fin du bâton, je me suis fait voler. Fait que, prochain achat, un bâton B45. Mais c'est juste pour dire que oui, le baseball mineur s'en va tranquillement vers le bois. Et puis, ça serait une belle pensée, en fait, pour les gens du baseball mineur de penser à B45 qui est 100% québécois. Comment ça a été? On va revenir un peu à Eric. Comment ça a été? Toi, ben, j'imagine, t'as quel âge, toi, Kevin?
30 ans,
OK, j'ai 27. Fait que t'as été dans la génération comme moi qui a vécu la frénésie game over avec les Dodgers. Puis là, ça devient un gars que tu côtoies, que tu habites chez lui pendant un certain temps, que comment tu as vécu ça vraiment de carrément côtoyer une idole? Là, ça a été comment pour toi?
Écoute, c'est quelque chose. Parce que Eric, tu sais, moi, je suis allé à la même école que lui à secondaire long petit en sport-études.
Ben oui.
J'ai fait le même cheminement que lui un petit peu. Là, après ça, j'étais allé à l'Académie de baseball Canada. J'étais allé au Junior College. Tout un petit peu le même parcours que lui qui a fait, je te dirais. Donc, tu sais, je sais d'où il vient, je sais qu'est-ce qu'il a fait pour se rendre là-bas. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y avait plus de talent que moi pour se rendre aussi s'est rendu. Là.
Pas dans la même position au moins. Mais...
non, c'est ça, mais tu sais, c'est Eric, je l'ai rencontré, puis écoute, ça a cliqué tout de suite. Là. On dirait que quand je parle, il me comprend tout de suite. Quand il parle, je comprends. On a vraiment une bonne chimie, que ce soit au niveau business ou au niveau personnel aussi, je te dirais. Ça c'est vraiment cliqué. Je vais toujours me souvenir quand il a gagné son Cy Young. J'étais dans le bureau de Stéphane Lepage à Edouard Petit. On attendait de savoir qui allait gagner. Puis écoute, il a gagné cette journée-là. Wow. Je me souviens de ça comme si c'était hier. Là, c'est tous des petits moments que. C'est même drôle en plus parce que j'ai envoyé une photo la semaine passée. Je faisais un ménage dans la maison. Là, pendant le confinement, on a eu le temps de faire du ménage. Là. Puis j'ai retrouvé une photo de moi puis lui. La première fois que j'ai rencontré, écoute, c'est ma mère. Elle m'avait apporté dans une place qui allait faire une entrevue. Puis écoute, j'avais entendu dehors là, comme un heure là, pour le rencontrer. Puis il m'avait signé une balle, il m'avait signé une casquette des Dodgers. Puis j'ai envoyé cette photo-là, puis il était comme « Wow, ça fait longtemps. »
Ouais.
C'est des relations que, des fois, ça ne s'explique pas comment que ça peut cliquer avec deux personnes. Mais Eric, écoute, j'ai souvent dit « Hey, je suis chanceux de t'avoir rencontré. » Puis il m'a dit « Non, Kev, t'es pas chanceux. La vie a fait qu'on s'est rencontrés. La vie a fait que... dans le fond, il m'a dit que t'as comme je t'ai offert l'opportunité de réussir et de faire tout ce que tu fais aujourd'hui, puis tu l'as pris. Fait que pour ça que je suis reconnaissant envers ce gars-là, je vais toujours l'être. Ouais, c'est pas mal ça.
Fait que ton idole, en quelque sorte, un gars que t'admirais au départ est devenu ton mentor par la suite. Encore une fois, c'est une histoire qui est des plus inspirantes. T'sais, imaginez chaque personne qui écoute le podcast présentement. Imaginez-vous votre idole ou quelqu'un que vous admirez au plus haut point dans un domaine que vous aimez. Devenez votre mentor du jour au lendemain. T'sais, c'est une personne que tu aurais chassé son autographe plusieurs années avant. Puis là, aujourd'hui, tu travailles avec à chaque jour. L'histoire est vraiment inspirante et très spéciale. Là, fait que c'est pour ça que je voulais que tu la racontes. Là, c'est vraiment une.
Puis tu sais, je suis pas le seul non plus. Eric, il a tellement pris des gars sous son aile là, que. Ouais. Tu sais, Eric, oui, il a eu la carrière qu'il a eue. Écoute, il est en Arizona, il joue au golf, il fait sa vie. Il prend le temps pour des gens qui veulent réussir dans la vie. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose que. Écoute, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Là. J'en connais beaucoup des joueurs, des majeurs, là, des anciens joueurs. Ils font leurs affaires, ils ont fait leur million, la vie est belle, ils gèrent leurs affaires. Mais Eric, il prend le temps d'écoute, tu sais, un Jason Therrien, un Philippe Aumont, écoute, il a amené des Carl Gélina, il a amené. On est allé coacher Team France avec lui World Baseball Classic, avec Yvan Nakarata, Jean-Philippe Poulin, un physio de Québec qui est venu avec nous autres là-bas. Wow. Il y a vraiment là, Eric, c'est quelqu'un qui prend soin de son entourage. Il va toujours s'assurer que tout le monde est correct autour de lui. C'est tout des petits détails que des fois dans la vie, là, ça fait que cette personne-là est autre que juste un ancien All-Star puis un ancien joueur de baseball. T'sais, il y a le côté personnel aussi qui entre là-dedans. Là.
J'en ai parlé un peu durant la semaine baseball quand tu vas écouter les autres épisodes. On en a parlé avec Mark Griffin, un peu avec Perry également, et puis Perry Janis de l'Expo Fest. Et puis, c'est ça, en fait, on a parlé d'Éric Gagné comme étant justement quelqu'un qui a le Québec tatoué sur le cœur sans faire de jeu de mots, parce que je sais qu'il y a un tatou de la fleur de lys sur un mollet, je pense, ou un avant-bras, mais c'est plus. Ouais, exact. Fait que, tu sais, ça reste que c'est un gars qui a le Québec à cœur. Puis, il y a beaucoup de gens, tu sais, que j'entendais sur les réseaux sociaux. Tu sais, je suis parmi ceux-là qui a été énormément déçu quand on sait tout ce qui est arrivé vers la fin de sa carrière, quand des révélations sont sorties. Mais il ne l'a jamais nié. Tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui a admis ses torts, qui a fait en sorte de... Tu sais, on fait tous des erreurs dans la vie, on s'entend là-dessus. Personne de parfait ici. Puis, de voir que le gars a compris ses erreurs, puis que par la suite, il a dit, garde, moi, je vais faire en sorte que j'ai peut-être fait certaines erreurs, mais j'ai des connaissances, puis j'ai fait face à des situations que peu de gens peuvent se vanter d'avoir eu dans leur vie, dans tout le monde entier, d'avoir fait face à des Barry Bonds, de striker carrément, de vivre ces moments-là sous pression, sous haute pression. On parle de tout ce qu'il a fait ou pas fait, là, on s'en fout. Ce moment-là est unique. Le gars a réussi à gérer ça comme peu de gens peuvent le faire. Puis, il y a des notions aujourd'hui qu'il peut apprendre, surtout aux jeunes de la relève. Puis, le fait qu'il s'implique avec des Philippe Aumont, des Jason Therrien ou avec toi-même, tu sais, ça en dit long sur le gars. Puis c'est ça vraiment que, tu sais, je veux dire aux gens, moi, je l'ai pardonné. Ça a été mon idole de jeunesse. Je l'ai pardonné par la suite. Ça a pris une couple de temps. J'ai lu son livre. J'ai mieux compris. Je vous le suggère, Game Over, écrit par Martin Leclerc. C'est vraiment un excellent livre. Puis ça l'a vraiment aidé à tourner la page, c'est le cas de dire. Puis aujourd'hui, je suis tellement fier de le voir s'impliquer, acheter une compagnie avec son groupe comme B45, qui est 100% québécois, puis de promouvoir les produits du Québec à travers le monde. C'est tout à son honneur, puis je voulais en parler aussi avec toi parce que tu le connais bien, puis c'est vraiment une histoire incroyable que tu as vécue avec lui.
Oui, c'est incroyable, c'est sûr. C'est sûr que c'est quelque chose que j'ai déjà dit plein de fois, mais c'est quelque chose que je vais toujours être reconnaissant envers lui de m'offrir la chance de pouvoir faire ce que j'aime dans la vie, de pouvoir avoir du plaisir à me lever le matin à 5 heures puis aller au stade durant le camp d'entraînement. Tu sais.
On va en parler de ça. Parce que j'ai vu tes nombreux posts, malheureusement, juste avant que la crise arrive, là, que tu étais dans le spring training, le camp d'entraînement printanier carrément, là, du baseball majeur, parce que c'est ton travail durant les camps d'entraînement. C'est, je pense, le moment de l'année où tu as le plus de job, veux pas. Il faut que tu fasses ce stade après l'autre en Floride. OK, il y en a qui vont dire, ben, regarde, il est chanceux, il a pas à se plaindre, mais c'est de la job quand même. Je voyais tes posts à 5-6 heures le matin. Il se lève de bonne heure, le gars. Il veut, il travaille, puis il est là jusqu'à tard le soir à faire essayer ses bâtons. Parle-nous de c'est quoi la vie de Kevin Young en camp d'entraînement et d'un MLB rep carrément.
Ben, écoute, comme tu as dit, là, c'est beaucoup de travail. C'est d'aller au stade le matin, c'est une affaire. Moi, j'ai commencé ça fait 4 ans, je pense. J'étais allé au spring training la première fois. Première fois que tu vas là-bas, tu ne sais pas trop où aller. Tu ne sais pas trop. Chaque place, chaque équipe, chaque stade, c'est différent. Il y a des équipes qui vont dire « OK, toi, tu peux venir dans la chambre, mais lui, il ne peut pas venir dans la chambre. Toi, ici, tu vas être seté dehors du clubhouse. » Il y a tout plein de petits détails comme ça que la première année, j'apprenais. Écoute, là, j'avais jamais été là. J'avais déjà eu la chance d'être dans le milieu du baseball majeur avec Russell Martin qui m'avait déjà invité à Tampa. J'étais allé voir les Yankees où j'avais eu la chance de côtoyer des Derek Jeter puis des A-Rod puis avec Ivan Nakarata. Il m'a un petit peu montré comment ça se passait. C'était vraiment cool. Sinon, avec Philippe Aumont, même chose. J'étais avec les Phillies. J'ai eu la chance d'aller avec lui dans la chambre des Phillies. J'avais catché des lanceurs des Phillies. J'avais un petit peu vu comment ça fonctionnait au niveau du baseball majeur. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux pas faire? Parce que c'est vraiment, là, c'est un monde que fais pas un pas à gauche si il faut que tu marches droit, puis il faut que tu t'assures de faire les choses comme il faut. Mm-hmm. Fait que, tu sais, j'ai eu ce petit coaching-là un peu avant sans même savoir que j'allais être avec B45 un jour. Donc ça m'a aidé beaucoup là, quand j'ai commencé avec B45 parce que justement, je savais déjà un petit peu où aller, comment, quoi faire. Donc, durant le temps d'entraînement, je te dirais que moi, j'ai une cédule à suivre là, avec des rendez-vous avec les équipes. Tous les jours, je vais rencontrer une équipe. Des compagnies qui font 2-3 équipes par jour. Moi, personnellement, j'aime mieux faire une équipe par jour, avoir une bonne visite, prendre mon temps avec les gars, parce que souvent, maintenant, je connais plein de gars dans la ligue, là, dans le fond. Je connais 5, 6, 7 joueurs par équipe minimum. Fait que, c'est sûr que quand je rentre dans la chambre des joueurs, Puis là, les gars, hey, what's up, Kevin? What's up, bro? C'est une relation qui est vraiment incroyable. Puis c'est un feeling que, je sais pas, parce que je suis jeune, je suis grand, spiritual, tu sais, je fit un petit peu dans le décor, si on veut.
Ouais, parce qu'on te voit pas à la caméra, mais oui, t'es grand. Non,
c'est ça. Les gars, ils s'associent à moi super facilement. Puis, je veux dire, j'ai des bonnes relations avec la plupart des joueurs. Là, j'ai du fun, je m'en vais là-bas, j'ai un sourire. Les gars, il y a une bonne vibe, tu sais, avec tout ça. Donc, chaque jour, je vois une équipe différente. Souvent, moi, je commence en Arizona, parce qu'en Arizona, il y a beaucoup de routes à faire. Tu pars d'exemple, je m'en vais à Fort Lauderdale. Après ça, je m'en vais à West Palm Beach, à Jupiter. C'est tout un site qu'il faut que je m'assure d'aller voir tout le monde. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de routes, beaucoup d'hôtels, beaucoup de déplacements, beaucoup de places qu'il faut que je sois en même temps, un petit peu. Là.
J'espère que tu as ta vignette en Floride parce que les toll roads sont chiantes quand tu te fais pogner.
Non, ça vient avec le rental car, c'est pas vrai.
Ouais, mais, ok, ouais. Non. Faut que tu le mentionnes, par contre.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, souvent, le spring training aussi, c'est le bon moment pour passer du temps avec les gars là, off the field aussi, là, parce que, tu sais, durant la saison, on va se texter, on va s'appeler FaceTime, on va se jaser, mais de passer du temps ensemble, d'aller souper, d'aller dîner, d'aller manger, d'aller voir une game de hockey, une game de basket. Tu sais, il y a plein d'affaires que c'est autre que juste les bâtons de baseball. Tu sais, je pense que c'est le côté le plus important de la business aussi. Là, tu sais, oui, tu sais, je suis chanceux parce que je connais beaucoup de joueurs de hockey aussi. Fait que souvent, ben là, Canadien est en ville, je vais aller voir les joueurs, je vais aller ici, je vais aller ça. Fait que, tu sais, c'est un milieu que tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Puis que, écoute, tu te fais inviter à des places, t'invites d'autres joueurs, les joueurs t'invitent. Fait que, tu sais, c'est vraiment un peu un rêve, là, tu sais.
Je t'écoute parler, là, puis je me dis, il y en a plein qui doivent rêver dans leur salon actuellement à dire, non, mais d'où qui sort ce gars-là? Comment il a fait pour en arriver là? C'est juste incroyable. C'est, tu sais, je me dis, par contre, ça, c'est un peu comme le il y a sûrement deux côtés à la médaille aussi. Ça, c'est le beau côté, mais en même temps, tu sais, pas que tu es une vedette, mais tu as tellement de contacts au niveau vedettariat que tu dois sûrement recevoir beaucoup de demandes des amis ou des presque amis qui disent « Hey, Kevin, ne t'attends pas de me donner une petite plug » ou « Hey, ça tente-tu de me faire signer telle affaire par tel gars? » Tu dois te faire achaler souvent quand même.
Ouais, c'est sûr, je reçois plein de messages un peu dans ce style-là. Là. Mais il y a toujours une façon de bien faire les choses. Je veux dire, dans la vie, il y a tout le temps une question de timing, tout le temps une question de... C'est sûr, je connais, exemple, Vladimir Guerrero Jr., mais non, je ne peux pas t'amener une balle pour tout le monde qui me demande une balle de Vladimir Guerrero Jr. C'est un petit côté qu'il faut que je gère un peu. Mm-hmm. Mais écoute, moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir faire plaisir à des gens. Puis si je peux le faire, je vais le faire. C'est sûr, comme j'ai dit, il y a un timing pour tout. C'est un petit peu comme ça que je gère ça, là. Parce que, tu sais, je veux dire, moi, je le vis, mais je connais des joueurs qui, eux, le vivent aussi, là, puis que, hey, t'as-tu des billets, t'as-tu ci, t'as-tu ça, tu sais, ça fait partie...
Ça, c'est pire, ouais.
Ça fait partie un petit peu de ce qui se passe, mais les joueurs, souvent, ils ont comme des bras droits là, qui gèrent ça, que ce soit de la famille, des cousins, des amis. Tout le temps, quelqu'un qui va un petit peu gérer le côté plus autre que le sport, tu sais. Puis au hockey aussi, c'est comme ça. Les joueurs, souvent, là... C'est un Québécois qui vient jouer au hockey à Montréal, là, je peux te garantir qu'il reçoit 150 messages textes et que tout le monde veut les billets. Là,
d'un coup, les amis du secondaire ressortent, puis hop, mais ce n'est plus de toi, c'est qui?
Non, c'est ça, tu sais. Mais je pense que les gars sont habitués, ils savent que c'est une partie de la game, ils gèrent ça. Moi, de mon côté, ben c'est sûr, j'essaie de faire plaisir au plus de gens possible, que ce soit peu importe. Là, souvent, quand c'est les games au Stade olympique, t'sais, j'ai eu la chance d'amener quelques de mes amis proches sur le terrain, rencontrer des joueurs, rencontrer du monde. T'sais. Fait que c'est des affaires qui sont le fun, mais c'est des affaires que c'est délicat aussi. T'sais. Faut... Mm-hmm. Si on peut le faire, on peut le faire. Si on peut pas, ben faut que les personnes y comprennent. C'est
ah pas, ben oui, puis il faut que les gens comprennent aussi. T'sais. Moi, je fais un peu de la photographie au niveau du baseball, justement. Puis quand je vais au stade, j'ai des amis des fois qui sont dans les estrades. Puis hey, tu peux-tu me pogner une balle sur le terrain? Tu peux-tu me rapporter un bat? C'est pas parce que tu es sur le terrain ou tu connais les joueurs que écoute, c'est tellement juste le baseball majeur. Là, s'il y a une fausse balle qui va dans les estrades, ils vont vous la laisser, il n'y a pas de problème. Mais les balles sur le terrain, tu peux pas te promener avec un sac puis les ramasser, ça marche pas de même, là. C'est tellement surveillé. Oh, c'est... Les gars d'équipe ont leur bag avec le zipper puis ils serrent tout de suite après la game. Puis si, ça, des fois, tu leur demandes, ils vont t'en donner une, mais ça marche pas facilement comme ça. Fait que c'est important que les gens le savent aussi. C'est quand même un gros détail. écoute, parlons un peu du bâton B45 en tant que tel. On a parlé un peu tantôt du Yellow Birch. T'sais, c'est sûr que c'est vraiment une combinaison aussi qu'on disait avec la flexibilité du frein et la dureté de l'érable, parce que c'est pas mal les deux, je peux dire, les deux meilleurs bois qu'on a au Québec présentement. Et la combinaison des deux donne qui est le boulot, en fait, dans le, que ce soit dans le plancher, l'industrie pour laquelle j'ai déjà travaillé, c'est la même chose, c'est reconnu pour sa flexibilité qu'on peut justement graver. Oui, ça peut poquer plus facilement, mais ça ne brise pas, ça ne va pas fendre. C'est vraiment ça votre avantage. Est-ce qu'il y a des compétiteurs présentement qui offrent le même bois ou un bois similaire sur le marché? Vous êtes vraiment les seuls?
Non, il y a des compétiteurs maintenant, là, parce que je veux dire, ils se sont rendus compte que c'était quelque chose qui fonctionnait vraiment bien. Ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient tombés en amour avec ce type de bois-là. Nous, on est chanceux parce qu'on est la compagnie originale qui l'a fait. Donc, c'est sûr que là, les joueurs, ils savent. Ils savent que nous, c'est tout ce qu'on fait du bouleau jaune. Ils savent que notre spécialité, c'est le bouleau jaune. Puis que dans le fond, eux vont savoir la meilleure qualité de bouleau jaune possible.
Vous êtes les premiers à le faire.
Exactement. T'sais. Donc, comme j'ai dit tantôt, là, c'est Olivier Lépine, Michel Laplante et compagnie qui ont commencé ça il y a 16 ans. Ils ont commencé ça, ils ont essayé ça dans le baseball indépendant avec les capitales. Ça a super bien fonctionné. Ils se sont rendus compte que les bâtons ne brisaient pas, qu'il y avait du power. Puis un petit peu, comme tu as dit tantôt, il y a un petit feeling là, d'extra flex, extra pop
ouais, dans le bâton. Un bâton de hockey que tu mets plus de flex dedans quand tu fais ton tir du poignet, que tu dis, il me semble que tu sais, lui, je le sais qu'il ne pètera pas, qu'il va plier juste comme il faut. Puis il y en a un autre que tu vas le prendre, tu vas dire, j'oserais pas mettre trop de poids dessus. Tu sais, mais on dirait que le B45, c'est ça que ça l'offre. Hein. C'est vraiment la flexibilité que tu n'as pas ailleurs. Puis c'est un peu bizarre d'imaginer flexibilité et puissance, là, mais ça procure de la puissance.
Ah, exactement. Puis tu sais, je veux dire, depuis que les joueurs ont accès à ça, comme j'ai dit, il y en a plein qui sont tombés en amour avec ça. Puis nous, notre main guy, c'était Carlos Gonzalez. Puis lui, il a une belle histoire parce que lui, écoute, en 2015, je crois, il a frappé 40 circuits avec nos bâtons. L'année d'avant, il avait eu une affaire comme 40 bâtons brisés. Là. Il frappait avec de l'érable avant. Puis c'était le league leader en broken bat. Puis même la ligue l'avait contacté puis il avait dit comme là, Carlos, faut que tu changes ton modèle de bâton parce que là, ton handle est peut-être trop mince pour ton barrel. Il y a quelque chose qui se passe là, par rapport à ça. Il faut absolument que tu changes de quoi parce que c'est rendu dangereux. Puis c'est un petit peu pour ça qu'ils ont établi des règles là, au niveau de la marque, le ink dot, là, la marque d'encre, la goutte d'encre, pour s'assurer que le grain était parfait pour des questions de sécurité. Donc, Carlos, c'est Willen Rosario qui a pris, il commandait nos bâtons. Il a donné un bat, puis il a dit hey, try this one out, essaye ça, puis let me know what you think. Fait que là, Carlos, il a pris le bâton. Je pense qu'il a fait deux circuits dans le même game, bang, bang. Puis depuis cette journée-là, il a pris le B45, il est tombé en amont le B45. Exactement. Puis là, il s'est impliqué avec la compagnie. Puis à ce moment-là, moi, c'est sûr, je suis rentré en contact avec lui, j'ai rencontré. Lui aussi, ça a cliqué vraiment bien. Écoute, Carlos, depuis qu'on s'est rencontrés, là, il m'a invité chez eux là, plein de fois. J'étais allé chez eux plein de fois avec sa famille. Écoute, on s'entraînait avec d'autres joueurs là-bas. C'est parce que là, j'accompagnais dans ses entraînements, dans ses pratiques au bâton, dans ses workouts, dans pas mal tout. Puis quand tu passes du temps avec ce gars-là, qui est reconnu à travers la ligue, à travers le monde, il y a d'autres joueurs qui voient que tu le connais, d'autres joueurs qui voient que, hey, this guy, ce gars-là, il est cool. Si Carlos, il l'aime, ça veut dire que je peux le truster et qu'il est cool. J'ai passé beaucoup de temps avec lui, avec sa famille, dans sa maison en Floride. Dans sa petite Ferrari aussi, là. On a fait un petit tour.
Un avantage social de la job.
Non, c'est ça, tu sais, mais ça fait partie de la game. Il y a le dans la cage des frappeurs, dans le gym, c'est quelque chose. À la maison, c'est quelque chose d'autre. T'sais, c'est toute une relation qui avec Carlos aussi, c'est incroyable la relation qu'on a. Wow. Puis ben, à travers tout ça, c'est sûr que je rencontre plein d'autres joueurs à cause de Carlos. Puis les autres joueurs, d'autres joueurs, d'autres joueurs, d'autres joueurs. Ça fait que la compagnie ne veut pas, ça prend l'expansion. Puis c'est ça qu'on veut, dans le fond.
Ben, exactement. Puis non, mais c'est bon que tu m'apportes sur Carlos Gonzalez parce que c'est vraiment un joueur qui, moi personnellement, c'est un de mes préférés depuis le début de 2010, je dirais, au niveau du stand, ce qu'on appelle la position bâton. Là, il y a un peu à la, je dirais, tu sais, griffé au niveau fluidité là, de l'élan. Là. C'est ouais. tellement beau à le voir s'élancer. C'est incroyable. Là. Puis les mains rapides qui sortent, c'est fou. C'est vraiment incroyable. J'aimerais que tu nous parles un peu de justement par rapport à lui. Qu'est-ce qui peut se produire pour qu'un gars, justement, puisse... Tu sais, parce qu'il y a eu quelques difficultés dans les dernières années, quand même, là, dans les 2-3 dernières années. Comment il a pu devenir un frappeur aussi dominant à avoir... C'est-tu parce qu'il a quitté le Colorado? C'est qu'est-ce qui peut arriver pour que les performances puissent diminuer à ce point-là? Ou c'est simplement l'âge aussi, parce qu'il avance aussi, il n'est plus dans la fleur de l'âge. y a-t-il un élément qui peut avoir arrivé ou...
Ben, je te dirais que c'est beaucoup, là, tu sais, le baseball, c'est beaucoup mental. Beaucoup de joueurs vont te le dire, là, le baseball, c'est mental. Carlos, il y a une saison de 40 coups de circuit. L'année d'après, il y a une saison correcte. Mais là, c'était la fin de son contrat. Ouais. Fait que peut-être que dans sa tête, je vais-tu retourner, je vais-tu pas retourner, je vais-tu aller free agency. Surtout qu'en ce moment, dans le baseball majeur, les agents libres, là, c'est rendu vraiment comme. C'est quelque chose que tu ne veux pas trop aller tester parce que tu ne sais pas trop ce qui va arriver. Les joueurs, ils signent tard. Donc là, l'année passée, tu sais, il a signé son contrat avec les Indians de Cleveland. Je pense qu'il restait 4 ou 5 jours au spring training. Donc, il s'est présenté là-bas. J'étais là-bas avec lui. Puis, il est arrivé là. Il avait 5 jours pour se préparer pour la saison. Donc, il a commencé l'année en 3 là-bas, prendre quelques apparitions de bâton puis se mettre prêt. Il est allé dans les majeurs avec Cleveland. Ça a été so-so parce qu'il ne jouait pas tout le temps. Ça, c'est une autre affaire. Quand tu es un joueur qui est habitué de jouer à tous les jours, puis quand tu as ton day off, tu es content d'avoir ton day off parce que, écoute, tu as joué 6 games cette semaine, puis tu as une journée off peut-être. Puis c'est là que tu te reposes ton corps parce que le repos au baseball, c'est 162 matchs par année. Le monde, ils m'ont dit le baseball, c'est pas le sport le plus physique.
Mais
tu as quand même 162 matchs en comme 180 jours, mettons. Tu as
un jour de congé par mois quasiment. Là,
c'est incroyable. Plus les entraînements, plus les pratiques, plus les... Il y a tellement à faire pour que ton corps il suive la parade dans ta saison. Ça, c'est des choses que les gens ne voient pas. Là. Les gens ils pensent que la game est à 7h30, les joueurs arrivent à 6h puis ils font un stretch. Non, les gars, ils arrivent à midi, minuit. Ils ont un setup, là, ils ont des vidéos à checker, ils ont plein d'affaires à faire que les gens n'ont aucune idée de ce qu'ils font.
C'est une vie d'athlète carrément. Puis, tu sais, c'est important que tu en parles de l'aspect mental, de l'aspect physique aussi derrière tout ça parce que. Tu sais, les gens, comme tu dis, qui pensent que le baseball n'est pas un sport vraiment physique parce que je pense que ça a été teinté par l'apparition dans les années 90 de gars vraiment plus gras, je pourrais dire. Des Pablo Sandoval qui ont été excellents, mais tu sais, Prince Fielder, on pense à eux autres, c'est des gars qui ont certaines corpulences, qui ont eu des bonnes saisons, mais ils n'ont pas taffé longtemps non plus. Là, on s'en va tranquillement. Les blessures sont apparues dues à leur poids aussi. Puis, on s'en va tranquillement vers une transition de joueurs ultra rapides, puissants, des athlètes. Les gros cogneurs d'aujourd'hui, c'est des Aaron Judge, des Stanton, qu'il n'y a pas un once de gras là-dessus. Là. C'est que du muscle, puis c'est dur, dur, dur. c'est des gars quand même qui... Ouais, c'est ça. Ça reste quand même une autre mentalité qui n'est plus la même que les années 90. Fait que c'est rendu un sport, c'est rendu que les gars ne peuvent pas se blesser parce qu'au hockey, tu te blesses, tu manques 2 semaines, tu manques à peu près 4-5 games. Mais au baseball, si tu manques 2-3 semaines, tu en manques 15 games. Là, fait que ça peut changer vraiment la donne.
C'est sûr. Puis les gars sont super bien encadrés au niveau de leur physique. Là, je veux dire, ils ont des coachs là, pour le strength coach, tous les services que tu peux t'imaginer, là, ils les ont, que ce soit au baseball ou au hockey, c'est incroyable. J'ai eu la chance de voir les deux mondes un peu là, au niveau du Canadien, au niveau de. C'est les joueurs, c'est des machines. Puis ils ont tout ce qu'il faut pour faire fonctionner leur machine. C'est un petit peu ça. Là. Mais c'est ça. Fait que Carlos, je te dirais qu'il a eu ça l'année passée. Cette année, il est arrivé au camp d'entraînement. Il était en shape, il était prêt. Il a eu un bon temps d'entraînement. Il me disait qu'il voyait super bien la balle, son élan. Écoute, ils ont toutes les statistiques. Là, la balle, le exit velocity, c'était autour de 110 000 à l'heure quand il frappait.
Fait que, c'était des bons
chiffres. T'sais. Puis c'est drôle, tu parlais de Kenny Griffey Jr. parce qu'il était au camp d'entraînement quand je suis allé là-bas.
Ah ouais.
J'ai rencontré Kenny Griffey. Puis c'est drôle parce que moi, Pernod, mes meilleurs amis, on jouait encore il n'y a pas longtemps au Nintendo 64 là, à son jeu.
Ah ouais, Ken Griffey 64, le meilleur jeu de baseball ever, ceux qui s'en rappellent.
c'était le jeu. Là.
Ah ouais.
Puis, écoute, j'ai parlé avec Ken Griffey et tout ça, puis Cargo, il était avec moi. Puis justement, Cargo, il m'expliquait, mais je le savais déjà, là, mais il m'expliquait que Ken Griffey, c'est son idole de jeunesse. Il a tout le temps voulu
être, pour ça un peu.
Être comme Ken Griffey. T'sais, c'est pour ça son swing, un petit peu, son, tu sais, quand il lâche son balle.
Ouais. Les mouvements des pieds à la fin. Ouais.
Fait que, tu sais, c'est quelque chose comme ça. Puis c'est drôle parce que là, il jouait avec les Mariners, Cargo, l'équipe à Griffey. Il ne pouvait pas le 24 parce que c'est Griffey. Fait que, tu sais, il a pris le 27, je pense. Mais non, tout ça, tu sais, c'est toutes des petites affaires. Il y avait les spikes à Griffey pour jouer. Cargo, il était reconnu toute sa carrière pour ses spikes, là, Nike, là, qui a tout le temps. Écoute, j'en ai une paire, là, je pourrais peut-être te montrer ça là, tantôt. Là, mais,
c'est sûr, ça ferait plaisir aux auditeurs et surtout à moi-même. On va prendre une petite pause là-dessus, deux secondes. Donc, pendant que pour les auditeurs qui sont audio présentement, moi, il n'y a pas de montage, on ne coupe rien. Donc, je vais juste faire un petit résumé rapide de ce qu'on parle avec Kevin présentement. Donc, Kevin Young, la compagnie B45, représentait MLB. On parle surtout de sa relation actuellement avec Carlos Gonzalez, puis d'autres joueurs du baseball majeur. Et puis, hop, je pense que Kevin est de retour pour nous montrer ses fameux spikes-là. Oh, mon Dieu!
Il a l'air, ouais. Cargo, c'est...
Ils sont autographiés par Cargo?
Ouais, c'est...
Wow.
Fait que, tu sais, c'est tout le temps... Cargo, il est tout le temps reconnu pour ses spikes.
Ah oui, je vois ça, là. Ils sont incroyables. Et ceux qui ne le voient pas, là, les auditeurs, parce que le podcast aussi est sur Spotify, c'est important de le dire, là, c'est un peu difficile de visualiser. Là, des beaux spikes Nike noirs avec une ligne blanche, un peu de jaune fluo, du rose dedans, le logo, puis la belle signature sur le côté. Et le dessous de la semelle, 100% fluo jaune avec un beau signe saumon rose un peu. Bref, chronique mode du Made in Québec podcast.
Fait que, non, c'est ça. Fait que, Cargo, c'est un gars qui, même chose, là, comme je disais comme avec Eric, là, tant que je suis allé chez eux, son cousin, c'est le cuisinier, sa cousine, c'est la femme de ménage. C'est toute une famille, puis lui vient du Venezuela, puis là-bas, c'est un petit peu comme ça. Là, c'est, tout le monde s'occupe de sa famille. T'sais, quand tu réussis dans la vie, ben, les gars, ils s'occupent de leur famille.
C'est génial.
Puis moi, je trouve ça le fun parce qu'il me considère un peu comme dans sa famille.
Wow.
Puis, tu sais, on s'appelle FaceTime une fois par semaine, on jase tout le temps, on fait plein de blagues ensemble, on a du fun. Moi, j'essaie d'apprendre l'espagnol tranquillement, pas vite, parce que j'ai beaucoup de joueurs qui m'appellent juste au téléphone, puis, hey, Kevin, qu'est-ce que tu passes au Renault? Je comprends
pas grand-chose. Il y a beaucoup de joueurs espagnols de nationalité qui parlent espagnol, en fait.
C'est pas évident. Je connais plein de petites niaiseries en espagnol, fait que les gars, ils trouvent ça drôle, ils rient, puis ça fait une belle ambiance. Mais non, c'est ça, c'est pas des petites choses que. Écoute, moi, là, en ce moment, on ne sait pas trop ce qui se passe avec le baseball. Je sais qu'il s'entraîne encore. Je sais qu'il est prêt. Je sais qu'il est passionné du baseball encore. Il aime ça. Puis, tu sais, je veux dire, Cargo, comme je t'ai dit, là, c'est une personne que... Tous les joueurs l'appellent. Il est super amical avec tout le monde. Tu sais, j'étais avec lui, puis Arenado, Story, les gars, ils se FaceTime, ils s'appellent. Puis c'est comme un... Tu vois que ce gars-là, c'est un autre niveau. Tu sais, il a fait sa marque dans la Ligue. Tout le monde le connaît. Moi, je suis confiant qu'il peut finir ça sur une bonne note avec une équipe.
À quel âge
à peu près? Fait que je souhaite tout le meilleur. Puis j'espère que ça va durer un autre 2, 3, 4, 5 ans, peut-être, on ne sait pas. Des fois, le baseball, là, quand ça déclique, là, ça va bien. Puis,
c'est tellement mental. Il y a quand même ça, il y a mi-trentaine à peu près en ce moment, Carlos.
Oui, je pense que
oui. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a encore quelques bonnes années qu'il peut offrir certainement. Puis, c'est juste de peut-être, tu sais, des fois, on pense souvent que le Colorado est un stade qui avantage beaucoup les frappeurs de longue balle. Ça, on pense à la pression atmosphérique. C'est prouvé naturellement que la balle flotte plus longtemps dans les airs, ce qui a longtemps avantagé des gars comme Todd Helton ou d'autres joueurs qui n'auraient peut-être pas connu la carrière qu'ils ont connue à cet endroit-là, mais également, il y a certains joueurs, parce que peut-être la façon qu'ils frappent, la balle est plus haute aussi, on n'a aucune idée pourquoi, là, mais de l'avoir peut-être à Seattle, c'est un des stades justement qui avantage les frappeurs, fait que j'imagine que ça risque de l'aider s'il est capable de pouvoir continuer, on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre non plus.
Non, ça serait le fun, écoute, moi j'y souhaite le meilleur, puis... Chaque fois qu'on se parle, moi, j'avais des petits challenges. Je veux que. Thierry va faire ça par rapport au bâton. Il va me dire, ah, t'es pas game de faire ça. Moi, je vais dire, ah, t'es pas game. Tu sais, des petits challenges de fun entre amis. Fait que ça fait une belle ambiance. Puis, tu sais, je parlais de Cargo, mais j'ai développé des super bonnes relations avec plein d'autres joueurs, là, avec mon travail. Puis, tu sais, c'est des relations qui ne sont pas juste pour les bâtons. T'sais. Puis ça, c'est important parce que les compagnies de bâtons, il y en a 40, je pense, dans le baseball majeur. Ouais. Puis, il y a 40 gars comme moi qui essayent de vendre leurs produits. Mais il y a le produit, puis il y a la personnalité, la relation avec les joueurs. Ça, c'est quelque chose que, tu sais, je pense que ça n'a pas... C'est tellement important là, de pouvoir bien gérer ça avec eux, là, parce que... Pas juste de texter, « Hey, what's up, tu veux tes bâtons? » Tu sais, moi, c'est complètement un autre game. Là. Moi, je veux m'assurer que... Et comment ça va, tu sais? Autre c'est... que les bâtons.
Tu vois, c'est tellement important que tu en parles. On va faire une parenthèse qui n'a aucun lien avec le baseball, là, mais j'ai quand même été 10 ans représentant, pas dans le domaine du baseball, là, mais dans le domaine du bois puis de la machinerie lourde, etc. Le but, en fait, d'un bon représentant, là, c'est, je pense, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui me suivent en ce moment, qui par rapport à certaines conférences que j'ai données, puis qui travaillent actuellement dans le domaine de la vente ou de la représentation, quoi que ce soit. Si on peut vous donner un seul bon conseil, c'est vraiment ça. C'est que le représentant, il ne faut pas que ça soit juste un gars qui vend un produit. Il ne faut pas que tu sois là juste pour parler de ton produit. Des fois, moi, j'allais voir des clients que, mettons, dans les pelles excavatrices, dans un domaine que j'ai travaillé ou dans les tracteurs, c'est une machinerie qui vaut 200-300 000. Bien, tu ne vas pas le voir juste pour parler de machinerie ou juste de, tu sais, « Hey, ça te tente-tu de m'acheter une machine? » Le gars, il ne veut pas nécessairement tout le temps acheter. Mais d'aller le voir juste, « Hey, comment ça va? » Puis de serrer la main, « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. La famille va bien. Comment, tu crées une relation de confiance avec ton client. » Puis c'est ça qui va faire que le moment venu de l'achat, c'est sûr que c'est un bon produit, ça va aider, là, mais le moment venu de l'achat, ton client va se rappeler de toi puis il va dire, « Ouais, ce gars-là était là, il a pris de mes nouvelles quand ma femme est rentrée à l'hôpital, il m'a rappelé, il s'est souvenu de notre discussion d'un an avant. » Prendre des notes aussi sur ce que les gens nous disent, d'être à l'écoute, que le gars semble que tu n'es pas nécessairement un numéro, mais que pour lui, tu es un humain devant lui, en fait, que tu comptes pour lui. Puis c'est tellement important, c'est la relation de confiance que tu bâtis avec ton client. C'est là-dessus que tu vas développer des belles relations à long terme, comme tu fais présentement avec Carlos ou avec tous tes autres protégés avec B45. Puis c'est vraiment ça. Les gens qui sont dans la représentation, développer un lien de confiance avant de focusser sur l'achat du produit, c'est ce qui est plus
important. Ah, c'est sûr. Un peu comme, tu sais, exemple, on a un Québécois là, présentement dans la maison majeure, là, Abraham Taureau.
Ah ouais.
Abraham, c'est drôle parce que moi, j'ai joué avec son frère Douglas pendant quelques années. Abraham, il venait me voir jouer, tu sais. Il disait, je me souviens quand tu jouais avec les Orioles à Montréal, tu catchais puis tu faisais ça, tu sais. Je suis même, toi, tu venais me voir jouer, puis là, moi, je m'en vais te voir jouer au Rogers Center contre les Blue Jays, frapper un circuit, tu sais. C'est des moments, c'est des affaires qui sont un petit peu spéciales, tu sais. Puis c'est là que, tu sais, on dit souvent Before You Family parce que on voit ça comme une grosse famille, tu sais, B45. Puis les joueurs qui font partie de notre famille, ben écoute, on en prend soin, puis on s'assure qu'ils sont contents. Puis, tu sais, Abraham, là, je sais que durant le off-season cette année, il a pris beaucoup de son temps personnel pour aller voir beaucoup de jeunes, beaucoup de fans de baseball à travers le Québec.
Je confirme.
C'est quelque chose qu'il n'est pas obligé de faire. Quelque chose qu'il aurait pu rester chez eux, puis frapper des balles, s'entraîner, puis whatever.
Ouais.
Il a pris le temps de le faire pour les fans au Québec, pour les jeunes. Tu vois qu'il veut redonner aux jeunes qu'est-ce que lui a eu un petit peu quand il était plus jeune.
Ah, tellement.
Moi, je me souviens qu'il venait nous voir au baseball, tu sais, en junior élite. Là, il venait nous voir, puis jamais on aurait pu dire que hey, lui, il va être des majeurs dans 8 ans.
C'est important que tu en parles, parce qu'Abraham, je pense, de ce que tout le monde dit, c'est pas nécessairement le talent qui était le plus, tu sais, sur les spotlights. Mettons, à 16 ans, tout le monde parlait que d'Abraham Taureau. Il était bon, il était clairement dans une moyenne plus élevée de son âge. Mais ce qui a fait qu'il s'est rendu où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui, c'est son éthique de travail. Je pense que c'est ce que tout le monde répète par rapport à lui. C'est un gars qui a une éthique incroyable puis qui focus sur les détails, qui veut s'améliorer. C'est un travaillant carrément, Abraham Taureau.
Ah, il est professionnel de A à Z, je veux dire, au niveau de sa préparation, au niveau de son entraînement, au niveau de gérer son temps, gérer tout ce qu'il peut faire. Abraham, c'est un professionnel. Puis, tu sais, je veux dire, je l'ai vu au camp d'entraînement l'année passée. Quand il y a eu un camp d'entraînement incroyable, qu'il a fait son nom pas mal au camp d'entraînement l'année passée, je te dirais. J'allais le voir les matchs. T'sais, moi, j'essaie de rester pour aller voir les matchs souvent quand j'ai des joueurs qui jouent. Après les games, comment tu te sens? Puis il dit, ben, je me sens bien, je me sens à ma place, j'aime ça, je suis confiant. Fait que c'est des petites affaires que il n'est pas vieux, là, Abraham. Là. Ça lui a pris 3 ans pour se rendre en baseball majeur. Il n'y en a pas beaucoup que ça va aussi vite. Là. Fait que il s'est rendu là. Là, c'est sûr que dans le baseball majeur, il y a beaucoup de joueurs qui vont le dire. Là. c'est difficile de se rendre dans la maison majeure, puis c'est encore plus difficile de rester là parce que chaque année, il y a des nouveaux gars qui arrivent, il y a des gars, il va tout le temps avoir un quelque part meilleur que toi. C'est pour ça qu'il faut que tu travailles encore plus fort pour garder ta place. Abraham, là, écoute, il travaille fort. Les joueurs, ils l'adorent. Là, je veux dire, je côtoie les Altuve, les Correa, les Springer. J'étais dans le clubhouse là-bas avec eux. Puis les gars, ils font des blagues avec lui. Les gars, ils l'aiment. Les gars, c'est comme une famille aussi. Là, les Astros, là, je veux dire, tous les gars, ils se connaissent depuis quelques années. C'est une famille, ils ont du fun ensemble. Puis tu vois qu'Abraham, il fit dans ce décor-là, il fit dans cette famille-là. Puis les gars, ils l'ont accueilli là, comme un... Tu sais, c'est sûr que le perfect game à Verlander...
Ouais, parle-nous de ce moment-là. C'est unique. Là. T'as été là à ce moment-là avec la famille d'Abraham?
Malheureusement.
Oh, attends, ça a coupé, Kevin.
Je suis parti la veille. Parce que j'en reviens au Québec, à Montréal.
Allô? Attends un peu, on a un petit problème avec le réseau, juste deux petites secondes. OK, tu m'entends-tu?
Oui, je t'entends, là.
OK, il y a juste un décalage au niveau de du vidéo. On s'excuse. La technologie du Zoom, on n'est pas les seuls là-dessus en ce moment. le son, il est bon, c'est pas grave. C'est vraiment juste vidéo qu'on va te voir en décalage, mais c'est pas grave. Juste tu nous racontes, c'est ça, le moment que tu n'as pas vécu, ce que tu disais dans le fond sur place avec la famille, mais c'est sûrement entendu le frère ou en fait Abraham en parler de ce moment-là. C'était unique, là.
Oui, ben c'est ça. Écoute, moi, j'étais revenu, j'étais allé là-bas avec mon ami Louis et Douglas, le frère Abraham. Puis, écoute, on est parti la veille. Parce qu'on avait quelque chose dans la même game, je pense, de senior, là, de série. Fait qu'il fallait qu'on vienne absolument le dimanche.
Hey, c'est
on est parti la veille. Puis, on a vu sur nos téléphones le live, le circuit Abraham. Fait
que vous avez été là pour le premier match, puis c'est au deuxième match que ça s'est produit en question. Puis, ouais. Son frère qui était là, en plus, au premier match, n'a pas été présent dans le fameux Perfect Game de ça. Justin Verlander. Wow!
C'est un peu chiant. C'est plate, regarde, qu'est-ce que tu veux. Ça fait partie de la game. On est allé le voir quand même là-bas. On a passé du temps avec lui. Il était super content de nous voir. C'est sûr, là, le reste de sa famille était là encore là, pour ce moment-là.
Oui, sa mère, je pense qu'elle était présente.
Oui, je pense que sa mère et une couple d'amis étaient là. C'est des moments qui, écoute, c'est inoubliable. Là. C'est quelque chose que... C'est incroyable de vivre ça. Là. Ça donne des frissons à nous, mais imagine lui, là, le Abraham là, qui est à Toronto, il a le stress de la game, bang! T'sais, c'est ça l'affaire, il n'est pas vraiment stressé, il est à sa place. C'est les mots que j'ai à dire, il est à sa place. Fait que,
il avait fait un circuit dans ce match-là. Hein? C'était-tu lui ou c'était l'autre match avant?
Non, il a frappé un circuit en 9e manche pour donner les devants aux Astros.
C'est ça, je me suis dit.
Puis après ça, il a attrapé le roulant pour le dernier retrait.
Oui, au troisième but, c'est vrai. Puis, puis le Verlander, il avait sauté d'un bras, puis il avait payé une belle petite Rolex, je pense, par après.
Exactement, ouais.
Ouais, c'est un moment unique. Tu sais, quand tu es Québécois, tu veux assister un jour, même si tu n'es pas lanceur, à un match parfait, parce qu'il n'y en a tellement pas beaucoup là, dans l'histoire. Là, c'est vraiment unique. Puis quand tu joues avec un Verlander, ben, ça l'aide à avoir un peu plus de chance. C'est un lanceur exceptionnel. Puis, il a vécu ce moment-là, puis en plus, c'est grâce à lui que le match parfait est arrivé devant son pays en plus. C'est incroyable.
Ouais, moment unique. C'est le fun de voir justement un Québécois atteindre cet objectif-là. T'sais. T'sais, au Québec, là, on a eu Éric Gagné, on en a parlé. On a eu Russell, Russell, il a une carrière incroyable. Là. Je veux dire, il a des séries, puis il a tout fait. Qu'est-ce que tu pouvais faire? On lui souhaite une bague à un moment donné. Ça serait le fun.
Il est passé proche.
C'est ça, il est passé proche. Ça serait le fun. Russ aussi, c'est un autre gars là, qui s'occupe tellement bien de son entourage. Moi, il m'a donné la chance de vivre des moments incroyables aussi là, au niveau d'aller le voir. Puis, Russ, c'est une autre belle histoire. J'ai rencontré, j'étais dans le Media 3 à Vero Beach. Il jouait là-bas avec les Dodgers. Puis, il m'avait donné un bâton signé. Puis, tout. C'était un drôle d'hasard, tu sais, parce que dans ce temps-là, il me donnait un bâton. Puis quelques années plus tard, c'est moi qui donnais des bâtons. Tu sais.
C'est ironique, pareil.
Ouais, c'était un petit peu spécial, c'est drôle. Puis je vais toujours me souvenir que ce bâton-là, que c'est un bâton, il y avait du tape dessus parce que c'est son bâton pour les pratiques au bâton, je sais pas. Puis dans un déménagement, je me l'ai fait voler.
Ah,
non. Ouais. J'ai jamais revu ce bâton-là. Puis quelques années plus tard, là, j'ai dit « Hey, Russ, je me suis fait voler le bâton que tu m'as donné. » Puis c'est quelque chose que pour moi, ça représentait des Russ. Là, moi, j'étais un catcher. C'était mon idole de jeunesse aussi. C'était mon modèle. Je voulais être comme Russell Martin. Puis quelques années plus tard, je m'entraînais avec lui, avec l'ABC, puis il s'impliquait avec moi, puis il me donnait des trucs. Puis, tu sais, c'était trippant là, tu sais, pour moi de vivre ça. Puis, il m'avait donné un bâton, justement. Russell Martin, Dodgers, Los Angeles, je l'avais signé. Tu sais, ça, c'est tout des souvenirs que... Il y a une histoire derrière ça, fait que c'est magique un petit peu, tu sais.
Ah, tout à fait. C'est des moments incroyables. Justement, je vais te poser la question. Ben, j'ai peut-être ta réponse un peu, mais je veux quand même te la poser. Je l'ai posée à Mark Griffin auparavant. Qui est, selon toi, le meilleur joueur de l'histoire du Québec qu'on a eu dans le baseball majeur? Ma réponse était Russell Martin. Parce que je pense qu'une carrière plus complète, on pense aussi à Éric Gagnon, on n'a pas le choix. J'ai eu Claude Raymond comme réponse aussi, il y a plus longtemps, mais il faut quand même penser à tout l'impact qu'il y a eu dans le baseball majeur québécois. C'est qui, selon toi, le meilleur joueur de l'histoire du Québec?
Écoute, c'est difficile, ça. Moi, personnellement, c'est sûr que Eric et Russell, c'est pas mal les deux tops là, qui ont accompli le plus à long terme. Mais je suis tellement fier de tous les gars qui se sont rendus dans le baseball majeur. Au Québec, il y a beaucoup de gens au Québec qui n'ont aucune idée de qu'est-ce que ça prend pour se rendre dans le baseball majeur. Moi, je le vois parce que j'ai la chance de côtoyer ces gars-là au camp d'entraînement, durant la saison. Je vois ces gars-là, tout le travail qu'ils font pour être aussi bons qu'ils sont. Tu sais, on pense qu'il faut travailler fort pour se rendre là. Non, il faut travailler plus fort que fort que fort, tu sais. Ces gars-là, c'est incroyable comment ils ont travaillé fort pour être là-bas. Puis c'est pas pour rien que c'est les meilleurs au monde aujourd'hui, tu sais, il en frappe des balles, puis il en lance des balles, puis écoute, c'est des répétitions, des répétitions, des répétitions. Éric Gagné, aujourd'hui, là, tu lui dis, lance 20 balles dans mon gant, là, puis je bouge pas, là. Il va en avoir 20 sur 22, peut-être, là, tu sais. Tout être là. Russell Martin, tu lui dis, frappe une balle au champ posé, il va en frapper 50 sur 50 au champ posé. Tu sais, c'est toutes des choses que des ces machines. Gars-là, c'est des machines, puis c'est incroyable à voir, là, tu sais. Ah, c'est okay, je te dirais, je peux pas te dire qui, là, mais tous les gars qui sont rendus là, là, j'ai honnêtement, je suis tellement fier de eux, puis je suis tellement, comme, j'ai pas de mots, là, c'est incroyable de se rendre là-bas, là, puis de faire partie des meilleurs au monde, là.
Ah, tellement.
Il y a tellement de joueurs, il y a des milliers de joueurs partout.
Ah, ouais.
Puis écoute, de se rendre là, je pense que c'est quelque chose de vraiment incroyable.
Ah ben oui, si on veut dire au pire, Russell Martin a peut-être eu la carrière la plus complète et longue dans le baseball majeur pour un Québécois, mais le meilleur exploit, c'est Éric Gagné définitivement avec le Cy Young. Ça ne sera jamais battu, ce que je pense pas. Je le souhaite à tout Québécois de battre ce record-là, mais 84 sauvetages consécutifs, ça va être difficile.
Non, ça va être une mission. Bonne chance.
Bonne chance, oui, exactement. Écoute, le temps file, il va falloir que je te laisse partir dans pas long. Pas que ce n'est pas intéressant, là, au contraire, c'est tellement intéressant, j'en aurais pour 2 heures encore. Je me suis pris des notes, là, des petites questions que je vais te donner en rafale avant de terminer. Si tu as un conseil ou plusieurs à donner à un jeune qui nous écoute ou que ce soit quelqu'un de plus vieux, j'ai posé cette question-là à certaines personnes qui ont un beau parcours comme le tien. Toi, ça serait quoi le conseil ou les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut réaliser son rêve, qui est un peu mission impossible comme le tien? Si quelqu'un, un jeune, dit ça à ses parents là, qui veut devenir rep dans le baseball majeur, ça se peut que son père va lui dire « Va travailler dans d'autres choses de plus stable. » Ça serait quoi ton conseil, tu dirais, pour y croire?
Écoute, moi, j'ai eu un conseil quand j'avais 6 ans, OK?
Oui.
Ça venait d'un certain Patrick Huard.
Oh, pas mauvais conseil.
Moi, écoute, je trippais Merrill sur lui à cause des boys. Je pense que j'avais 6 ou 7 ans. Il m'avait dit... Je voulais le voir, là. J'étais allé au Canada pour le voir à la fureur, une affaire de même. Puis, j'attendais après, puis dans ce temps-là, il était avec Véronique Cloutier. Il restait dans les loges, puis tout ça. Puis là, moi, j'ai dit à ma mère, je veux voir Patrick Huard. Puis là, ma mère, elle a dit, OK, mais là, il n'est pas là, là. On peut pas le voir, là. Elle dit, on va attendre un peu, là. Puis, fait que finalement, je l'ai vu. Puis j'étais pas content, puis j'ai chialé, puis j'étais comme, je veux le voir, puis la sécurité était là, puis j'ai dit, je veux le voir.
Le petit gars vraiment chanel.
Non, Patrick Huard est arrivé, puis il m'a dit, toi, là, il dit, t'as une tête de cochon, il dit, puis tu vas aller loin dans la vie. Il dit, garde jamais ta tête de cochon. Fait que là, moi, là, c'est niaiseux, mais aujourd'hui, je pense encore à ça. Puis je me dirais que, je dirais à un jeune, là, dans la vie, quand tu veux quelque chose, travaille pour le faire. Dans le fond, travaille pour atteindre tes objectifs. Parce que dans la vie, on peut tout faire ce qu'on veut. Honnêtement, là, on peut atteindre tous les objectifs qu'on veut. On peut se rendre où on veut. Si tu veux être dans le baseball majeur, fais tout ce que tu peux, toi, qu'est-ce que tu peux contrôler toi pour te rendre là. que ce soit si tu veux être, peu importe là, dans quelle branche tu veux t'enligner dans la vie, là, je pense qu'il y a toujours une façon de pouvoir atteindre tes objectifs. Mais reste focus, travaille pour atteindre tes objectifs, puis je pense que tu vas pouvoir réussir dans la vie. Qu'est-ce que tu peux réussir?
C'est vraiment des excellents conseils, puis c'est vraiment ça que je veux, parce que je donne des conférences aux jeunes, justement, dans les carrefours jeunesse, dans les écoles secondaires, pour qu'ils croient un peu plus en leurs rêves. Parce que moi, j'ai tout laissé ma carrière de représentant pour m'en aller en photographie sportive, comme tu sais déjà. Puis c'est vraiment ça, en fait, c'est de dire... Au départ, il y a beaucoup de gens qui te mettent des bâtons dans les roues, beaucoup de gens qui peuvent te décourager puis te dire « Ouais, mais tu sais, c'est peut-être pas idéal, tu sais, c'est pas la branche qui est la plus facile, il n'y a pas beaucoup de jobs, ça ne sera pas payant dès le départ, tu vas miser sur la sécurité. » Mais si c'est ça ton rêve, puis tu ne veux pas te coucher avec des regrets, un peu comme on a parlé dans l'épisode avec Marc Griffin, de ne pas se coucher le soir avec un regret, bien, fais en sorte que ton rêve se réalise, puis de se lever chaque jour en aimant ce qu'on fait, comme Kevin, à 5 heures du matin en Floride, il aime ce qu'il fait, puis ça ne lui dérange pas de se lever pour aller voir ses joueurs. Ben, c'est vraiment ça que je suggère à tout le monde, d'écouter tes conseils, puis fais en sorte de garder ta tête de cochon, puis tu sais, fonce, lâche pas, va au bout de ton point, puis tu vas réaliser. C'est rendu là, tout est possible, puis tu sais, il n'y a pas de chance dans la vie. Hein. Quand le monde dit « Ah, t'es tellement chanceux, toi, tu sais, je reçois quelqu'un comme toi aujourd'hui, tu sais, ah, t'es chanceux. » Il n'y a pas de chance. Tu sais, la chance, là, on la crée nous-mêmes. Moi, tu sais, nous deux, si on peut faire un petit comparatif, là, mais une petite anecdote. Nous deux, on s'est connus. C'était un ami qu'on avait en commun, mais que je ne connaissais pas à l'époque. J'ai publié simplement mon parcours sur LinkedIn, comme quoi j'étais reconnaissant que la vie me donnait cette chance-là de faire ces rencontres-là aujourd'hui, puis que j'avais un beau parcours. Et puis, j'ai quelqu'un qui m'a écrit « Hey, tu pourrais peut-être aller prendre des photos en Floride. J'ai un contact, je te l'envoie. » Et c'était Kevin Young. On a été mis en contact et par la suite, on a développé une relation qui est agréable depuis ce temps-là. Tu sais, les contacts arrivent, il n'y a pas de chance. C'est du travail, c'est le temps, puis la vie fait bien des choses, puis c'est là souvent qu'on va recevoir des cadeaux un peu comme ça. Fait que c'est vraiment inspirant de te recevoir aujourd'hui.
Ça fait plaisir, c'est bien le fun.
Tant mieux. Écoute, en terminant, j'aimerais avoir, ben, on va terminer sur une note, une question plus crunchy, puis une question plus évidente pour terminer.
Vas-y.
Question plus crunchy, qu'est-ce que tu penses des Astros de Houston qui ont triché en série mondiale?
je peux pas rien dire par rapport à ça.
Non, t'as des athlètes, c'est sûr.
J'étais pas là, j'ai aucune idée. C'est sûr que ce qui est sorti, c'est un petit peu plate, là, si c'est vrai. Mais personnellement, là, t'sais, moi, ces gars-là, je les connais personnellement. J'ai jamais entendu d'histoire par rapport à ça. Je peux pas rien dire par rapport à ça. C'est sûr que c'est pas le fun. Mais écoute, je pense qu'avec ça, ils vont prendre les procédures et les mesures pour plus que ça réarrive si c'est arrivé. Sinon, je pense, t'sais, oui, les Astros, en ce moment, il y a beaucoup de monde qui sont fâchés. Ils sont fâchés puis ils ont raison d'être fâchés.
Ça fait la peine.
Ben, tu sais, c'est ça, tu sais, sauf que, écoute, on peut pas, moi, personnellement, je peux pas dire rien, je peux pas juger rien. Parce
non,
que,
on veut pas te mettre dans l'embarras non plus, c'est pas ça le but.
j'étais pas là, je sais pas. Mais c'est sûr qu'il faut garder le baseball le plus clean possible.
Ouais.
Parce que, tu sais, de voler des signes, là, tout le monde l'a déjà fait.
Ouais, tu travailles d'abord, tu check le catcher.
Ben, tu sais, souvent, c'est les coureurs au deuxième but, ils vont voler les signaux aux frappeurs. Tu sais, il y a des petites méthodes là, que les joueurs, ils ont, on connaît, on le fait dans les ligues de seniors, dans les ligues juniors, on le fait partout. C'est plus le côté technologique là, qu'on connaît pas, en fait, c'est arrivé, là, mais regarde, c'est ça.
C'est du passé, il faut faire avec, puis espérant que ça ne se reproduise plus. Puis anyway, de toute façon, je pense que le baseball majeur est assez au courant aujourd'hui pour prendre les mesures que ça n'arrive plus, justement. Là. Puis on
va les laisser gérer ça.
Exactement. Bien répondu en politicien. Prochaine carrière, Kevin. C'est correct. Dernière question en terminant. Ça, on a parlé un peu de B45, de ton parcours, un peu de tout. Si on veut finir ça en beauté, est-ce que tu penses qu'il va y avoir du baseball majeur cet été? Sur les ondes de télévision ou en personne, on ne sait pas. C'est quoi ton opinion par rapport à ça?
Mon opinion, c'est que je te dirais, ça me surprendrait beaucoup que le baseball, le hockey reviennent si c'est pour mettre des gens en danger. Dans le sens où, tu sais, en ce moment, on ne sait pas trop ce qui se passe. On ne sait pas demain matin que ça va être quoi les nouvelles par rapport au coronavirus et tout ça. On prend les procédures, chacun dans notre maison, j'imagine, là, pour essayer d'éviter que le virus se propage plus qu'il est déjà propagé. Mais mon feeling, on a eu vent là, qu'aujourd'hui, il allait y avoir des nouvelles au niveau de la MLB là, par rapport à peut-être une saison qui commencerait peut-être en juillet.
4 juillet, ça serait concept.
Ouais, ça serait le fun, hein?
Ah ouais.
Mais c'est ça, j'ai lu là, un matin là, comme quoi que, il parlait de peut-être commencer une saison en juillet.
70 matchs,
quelque chose comme ça. Puis d'avoir un autre spring training en mi-juin. Là, c'est sûr qu'il faut être réaliste. Il faut que les gars aient du temps pour se préparer. Ouais. Les lanceurs qui aient du temps pour se préparer. Parce que se lancer dans un filet et frapper des balles sur un tee-ball, c'est correct, là, mais pour avoir le game ready, game shape, il faut jouer des games, il faut frapper contre des lanceurs, il faut prendre des répétitions. Écoute, mon rêve, c'est qu'il y en ait. Mon rêve, c'est que le baseball, il reparte de l'apollo.
C'est tellement le fun.
Puis là, si on écoute les exploits à télé, c'est le fun aussi, là, mais ouais. On a hâte de voir du vrai baseball de actuel, si on veut.
C'est sûr, on connaît les scores.
Ah, c'est ça, tu sais. Fait que, non, mais c'est le fun de voir aussi dans le temps comment c'était, puis aujourd'hui, puis tu sais.
Ah, ouais, ça a changé, hein, c'est fou.
C'est le fun de voir des gars que. Je me souviens de Darren Fletcher, c'était mon catcher préféré dans ce temps-là. Puis tu sais, je le vois jouer, puis je suis comme, c'est pour ça, tu sais.
Ah, ouais, tellement.
Donc, c'est des choses le fun, mais je souhaite vraiment le retour du baseball, puis du hockey aussi, parce que j'étais un gros fan de hockey aussi. Puis tu sais, dans les deux sports, là, les gars, je leur parle, puis il n'y a pas de nouvelles de rien, là, vraiment, de officiel.
On parle, c'est difficile pour les athlètes en ce moment. Il y en a, ils font pas pitié non plus, mais ça reste des gars comme Mike Trout qui perdent 30 millions dans la saison parce qu'ils jouent pas. C'est quand même beaucoup d'argent. Puis c'est aussi le pas jouer pendant un an. Il y en a qui vont prendre leur retraite comme ça. On pense à Russell qu'on n'espère pas que ça arrive, malheureusement, mais il est en fin de carrière, pas de contrat. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui vont être hypothéqués avec, qui vont malheureusement avoir une carrière précipitée qui va se terminer. Mais, on pense aussi à des compagnies comme B45. Tu sais, c'est pas facile. Vous étiez vraiment le vent dans les voiles, tout allait bien. S'il n'y a pas de baseball, bien, pas de bâton qui se vend. Il n'y a pas de baseball mineur. Il n'y en a pas non plus qui se vend. Ça doit être difficile aussi à l'interne pour vous.
Oui, c'est sûr que, mais tu sais, on s'est bien préparé par rapport à tout ça aussi. On était un petit peu chanceux là, que ça arrive juste après le camp d'entraînement. Tu sais, là, au niveau du baseball majeur, les commandes étaient déjà pas mal toutes faites. Donc, pour la saison, je dirais, là. Donc, okay. À ce moment-là, on était quand même pas si près. Mais la compagnie, elle se porte super bien. Tout se passe bien. On fait les choses de la bonne façon. C'est sûr qu'en ce moment, moi, mon travail, généralement, je vais faire des petits suivis avec du monde pour m'assurer que tu donnes quelque chose, t'as-tu ci, t'as-tu ça. En ce moment, je suis un petit peu plus, je veux pas pousser personne à rien parce que c'est pas le temps. C'est pas le temps, je veux m'assurer que tout le monde va bien là, avant de parler de buter des bâtons, puis on n'est pas là. Mais c'est certain que la compagnie, il faut que ça continue à rouler. Il y a beaucoup de gens qui vont acheter des vêtements, des casquettes, des bâtons en ligne.
Pour
nous encourager aussi là-dedans. Parce que c'est sûr que au niveau des bâtons, c'est certain qu'il y a plein d'équipes durant l'été qui commandaient 30, 40 bâtons, que là, en ce moment, c'est stand-by, puis on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais la compagnie se porte super bien. Puis on réussit quand même à bien faire les choses là-dedans.
Écoute, on vous le souhaite sincèrement. Écoute, B45, c'est une excellente entreprise, comme j'ai mentionné plus tôt. Puis si les gens veulent vous encourager, tu as bien fait de mentionner, d'acheter des casquettes. Vous avez un super de beau brand, un beau B45 comme la casquette que tu portes actuellement. Est génial, vraiment. Un beau plan rapproché. Merci. Donc, c'est vraiment un beau produit. Vous pouvez acheter des gants, que ce soit des gants de frappeur, des gants de lanceur également. On a vu Philippe Aumont qui utilise vos produits ou Jason Therrien. Tu sais, il y a des gars du baseball majeur qui croient en ces produits-là. Beaucoup de Québécois qui les utilisent. Charles Leblanc, Benjamin Pelletier. Tu sais, encourager un peu plus cette entreprise-là au lieu de favoriser peut-être des compagnies que je nommerai pas, mais vraiment plus américaines. On a des bons produits au Québec. C'est le même prix. C'est concurrentiel. Profitez-en. Encouragez-les. C'est le temps plus que jamais. Made in Québec. C'est le but du Made in Québec podcast. Encourager, fait au Québec. Et puis, as-tu quelque chose à rajouter en terminant? Si y a quelque chose à rajouter?
Si les gens ont des questions, si les gens ont besoin d'informations, quoi que ce soit, moi, c'est sûr... vous pouvez me contacter là, sur Facebook, Kevin Young, ou sur Instagram, j'ai KevYoung45. Je vous suggère d'aller suivre la page de B45 Baseball aussi. Souvent, on fait des petits concours. Là, on donne des bâtons, on donne des panthers, des gants, des choses comme ça. Ça peut être intéressant là, pour plein de monde de partager, faire passer le mot. Je pense que ça peut être quelque chose de vraiment le fun. Puis si vous avez des questions, là, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de m'occuper de vous.
Exact. Vous allez dans vos choix. Je viens d'avoir un flash. Deux petites secondes à tout le monde, ça vaut la peine. Deux petites secondes. Désolé pour le petit temps d'attente. Un autre produit que B45 peut offrir, je me suis rappelé que j'avais ça dans mon bar. J'ai déjà reçu ce petit bâton en termes de trophée.
C'est
un bâton fait par B45, équipe championne du tournoi de la Plaine, Midget 2010. Oh,
ouais, c'est des beaux souvenirs, ça.
C'est des beaux souvenirs, tu sais, d'avoir ça. J'en ai deux, trois de même. À chaque fois qu'on gagnait un tournoi, au lieu de recevoir une petite bobblehead ou un petit trophée qui s'en va dans les vidanges en terminant pour la plupart du monde, ou certains comme moi qui les collectionnent, ben, de recevoir un beau petit bâton en bois B45, c'est niaiseux, je ne connaissais pas ça à l'époque, puis c'est ce qui m'a fait connaître B45 lorsqu'ils nous ont offert. C'était un cadeau qu'on avait reçu de la part de l'entreprise. Et puis, c'est là que j'ai découvert que c'était bien de recevoir ça comme trophée. Un beau petit bâton miniature, puis c'est un vrai bâton de bois, vraiment. Donc, si jamais vous avez du sport mineur, que vous voulez offrir des trophées au niveau du baseball mineur, ben pensez à B45, trophée personnalisé, c'est génial.
Puis, il y a plein de compagnies aussi qui commençaient des petits bâtons comme ça, là, avec un logo de la compagnie, à la place, de donner des crayons, puis des petites affaires, des calepins, des affaires normales. Mais il y a du monde qui aime ça, avoir un petit bâton comme ça, comme trophée. Puis ça peut être des belles idées cadeaux.
Exact. Écoute, c'était hyper intéressant. Pour vrai, je te remercie énormément. Kevin Young, de la compagnie B45 Baseball. Et puis, je vous suggère encore une fois d'aller les encourager. C'est le temps plus que jamais sur leur site web B45 ou leur page Facebook. Vous pouvez les suivre. Des beaux petits concours aussi. Puis, si vous avez des questions, comme Kevin a dit, communiquez avec lui, soit sur Facebook ou Instagram. Et puis, on va mettre les liens directement dans la page Facebook par la suite. Alors, merci énormément à tous d'avoir été présents pour ce 6e épisode déjà de la grande aventure du Made in Québec podcast. Et puis, c'est ce qui termine la semaine spéciale baseball, espérant que vous avez bien apprécié. Et puis, une chance que ça se termine parce que c'était mon dernier chandail que j'avais pour la semaine spéciale baseball. Alors, merci beaucoup. Et puis, on se revoit pour le 7e épisode du Made in Québec podcast. Merci.